Que demander à vous en ce moment à Dieu dans la prière? De quoi avez-vous besoin vraiment en ce moment et que vous demandez à Dieu? Peut-être que vous demandez plus de convertis dans votre église. Peut-être que vous demandez plus de puissance pour la prédication. Peut-être que vous priez pour votre conjoint ou pour un enfant où il y a un souci. Peut-être que vous priez pour un travail, pour un conjoint, pour une guérison, pour une délivrance. Toutes ces requêtes sont parfaitement légitimes. Et toutes ces requêtes sont parfaitement dangereuses. Tim Keller, dans son livre sur la prière, cite un échange de courriers entre Augustin et une femme noble romaine, Anicia Faltona Proba. Cette femme chrétienne lui demande ce qu'elle doit demander à Dieu dans la prière. Il lui répond de façon étonnante. Avant de savoir pourquoi prier, il vous faut vous savoir nécessiteux du cœur, quelle que soit l'abondance de vos biens. Les écailles doivent tomber de vos yeux. Peu importe vos circonstances, aussi heureuses soient-elles, elles ne vous apporteront jamais la paix, le bonheur et la consolation qui se trouvent seuls en Christ. Si vous n'avez pas clairement compris ce principe, vos prières risquent d'exacerber votre problème spirituel. Expliquant cette réponse énigmatique de Augustin, il soutient que nous avons un problème de priorité dans la prière, d'hiérarchisation de nos requêtes de prière. Les sujets que nous mettons en première place devraient être en troisième ou quatrième place. Et les sujets que nous mettons en troisième ou quatrième place, nous remontons à la première place. Et ainsi, elles deviennent presque une idolâtrie. Parce que notre premier besoin, c'est de la grâce de Dieu et de sa présence. Et tout le reste se range en dessous. Si notre soif de Dieu est reléguée à la troisième ou la quatrième place, Dieu doit assumer le rôle du génie dans la lampe que nous frottons pour qu'il nous apporte les réponses à nos désirs. Et cela peut être idolâtrie. L'apôtre Paul a compris cette leçon à la dure école de la souffrance. Il a appris cette leçon quand Dieu lui a refusé une requête de prière totalement légitime. Il nous explique cette expérience dans 2 Corinthiens au chapitre 12, où il va apprendre que la grâce de Dieu seule suffit, où il va apprendre que ses faiblesses, ses souffrances même, peuvent être des grâces déguisées de Dieu. Je vous invite à découvrir cette leçon avec moi dans le texte. Un mot sur le contexte d'abord. Dans le chapitre 11-12, l'apôtre Paul est en train de lutter avec ce qu'il appelle des super apôtres. Il veut regagner le cœur des Corinthiens chrétiens, qui sont ses enfants spirituels. Il s'inquiète pour eux parce qu'ils se sont amourachés de ces super apôtres qu'il appelle aussi des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. C'est des gens qui sont super sympas, qui prêchent super bien, qui racontent de super histoires, qui font de super miracles. Ils en jettent, quoi. Et Paul, à côté, il paraît un peu faiblard. Mais il va se battre, non pas pour sa réputation personnelle, non pas pour sa gloire personnelle, parce qu'il ne veut pas voir ces gens menés à l'abattoir par ces prédateurs. Pour se battre, il décide de rappeler son CV aux Corinthiens. Ça l'embête beaucoup de le faire, il s'en excuse à plusieurs reprises dans le texte. Mais au lieu de mettre en avant ses diplômes, il fait état de ses souffrances. Je vous propose de commencer la lecture au chapitre 11, verset 22, 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham ? Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ ? Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Nous faisons une petite pause sur le verset préféré de la CSR. Et on fait part de ces souffrances et devons encore achever de damer le pion à ces super apôtres. Il va passer maintenant à une expérience spirituelle extraordinaire qu'il a vécue. Paul va jouer son as. À un moment donné, il a été électrié ou bien télétransporté, il ne le sait pas trop, jusqu'au troisième ciel. Nous reprenons notre lecture, chapitre 12, verset 1. Faut-il se vanter ? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis, a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serai pas déraisonnable, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Époustouflant. Le gars, il a vu le ciel. Peut-être Dieu même sur son trône, des anges. Il a entendu des choses qu'on ne peut exprimer. Si j'avais vécu une expérience comme ça, j'aurais écrit un best-seller qui détrône tous les livres de témoignages dans nos librairies évangéliques. Je vois même déjà les titres. Brad Dixon a touché le ciel. Brad Dixon a vu la terre du haut, d'en haut. Brad Dixon a côtoyé Dieu. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas du tout sur cette expérience. Il nous surprend à cet endroit dans son argumentation. Parce qu'au lieu de se glorifier de cette expérience, il va se glorifier de ses faiblesses. Nous reprenons la lecture au verset 7 et nous en arrivons au cœur de notre texte. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps. Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. » Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors que les super apôtres se glorifiaient peut-être de réponses fantastiques à la prière, l'apôtre Paul se glorifie d'une réponse négative à la prière. Bien que sa demande à Dieu était légitime, Dieu avait une autre priorité pour l'apôtre Paul. Cette priorité était de le garder de l'orgueil. Cette priorité était de le garder dans la dépendance à la grâce de Dieu. Voilà l'essentiel. Et je crois voir dans ce texte trois pièges qui auraient pu empêcher l'apôtre Paul d'en arriver à cette dépendance de la grâce. Ces pièges, je les connais bien parce que j'y tombe régulièrement. Je pense voir de temps en temps dans mes chers collègues responsables d'église la présence de ces pièges. Le premier piège, c'est la soif de la reconnaissance de ce que nous servons. La soif de la reconnaissance de ce que nous servons peut remplacer la recherche de la dépendance à la grâce de Dieu. Nous marchons sur un autre carburant. Deuxième piège, la recherche d'un ministère puissant peut m'empêcher de vivre dans la dépendance de la grâce de Dieu. Et troisième piège, l'envie d'une vie confortable, sans souffrance, peut m'empêcher de vivre dans la dépendance de la grâce de Dieu. Nous allons examiner ces pièges les uns après les autres. La soif de la reconnaissance pour mon ministère. Nous naissons tous avec une soif quasi insatiable d'être reconnus par les autres. Je le vois dans mes petits-enfants. Si grand frère ou grande sœur se rend compte que petit frère ou petite sœur lui a volé la vedette, est devenu le centre de l'attention dans la pièce, cet enfant va tout de suite se mettre à agir bêtement pour attirer l'attention. Alors quand on devient plus grand, on a des moyens plus subtils pour le faire. Mais ce qui est derrière est aussi primaire et aussi moche. On le recouvre d'un joli déguisement spirituel. J'en prends pour exemple notre réponse à la question « Vous êtes combien maintenant dans votre culte ?» Question qu'on se pose souvent dans ce genre de rassemblement. Je remarque qu'il y a en moi une tendance quasi automatique d'arrondir ce chiffre vers le haut. Si on est 24, j'entends ma bouche dire « Oh, une trentaine !» Attention, je vous fais une confidence. Pierre Pareto vous surveille. Si dans votre lettre de nouvelles pour le congrès, vous marquez que vous êtes 100, bing, les cotisations seront alignées automatiquement sur ce que vous aurez partagé. C'est le prix de votre orgueil, frères et sœurs. J'ai appris que quand nous partageons nos réussites dans le ministère avec d'autres, nous créons de la compétition autour de nous. Quand je partage, comme le fait Paul ici, mes faiblesses, je crée de la communauté. Ce n'est pas pareil. Paul aurait pu se glorifier de nombreuses victoires dans le ministère, tant d'églises implantées, tant d'âmes sauvées, tant d'hommes et de femmes formés pour le ministère, tant de miracles, tant de réponses à la prière. Mais il partagera avec nous ses faiblesses parce que c'est là qu'il touche du doigt la grâce de Dieu dans sa vie. Rechercher la reconnaissance des hommes, aussi habilement déguisée que ce soit, est une idolâtrie qui nous éloigne de la grâce parce que c'est un système de mérite. Voilà ce que j'ai accompli, vous devriez me reconnaître. Dieu ne fonctionne pas comme ça, nous sommes à l'opposé de la grâce. Une autre manière de nommer cette soif de reconnaissance, c'est de parler d'orgueil. Et Dieu ne veut pas que l'apôtre Paul tombe dans l'orgueil, alors il lui prépare un dispositif anti-orgueil. Il lui accordera une grâce douloureuse, une grâce difficile, une écharde dans sa chair dont nous parlerons tout à l'heure. Et oui, les grâces de Dieu ne sont pas toujours de prime abord agréables à nos yeux. Mais je me demande quand est-ce que j'apprendrai ça une fois pour toutes. Je me demande quel genre de chrétien je serais, quel genre de serviteur de l'Évangile je serais si je n'avais connu que des réussites dans mon ministère. Jeune marié, j'ai eu la bénédiction de pouvoir faire des études dans une faculté de théologie au Canada, de recevoir un beau diplôme. Alors les revues chrétiennes surveillent les listes de ceux qui sortent des facs et ils nous envoient des lettres avec des offres alléchantes d'abonnement à des revues chrétiennes. Et quelle a été ma joie de recevoir pour la première fois une lettre marquée « Monsieur Révérend Brad Dixon ». Je me suis précipité pour le montrer à ma femme, à qui Dieu a inspiré la réponse adéquate. Très bien, mon révérend, c'est l'heure de faire la vaisselle et c'est à toi de le faire. Je n'irai pas jusqu'à dire que ma femme est mon écharpe dans la chair. Elle est une grâce un peu piquante de temps en temps, c'est tout. Mais une grâce certaine. Jeune missionnaire, le Seigneur nous a confié l'implantation d'une église à Gap. Dans les 6 premiers mois, nous avions baptisé 11 personnes. En l'espace de 7 ans, l'église a grandi, nous avons acheté un terrain, construit un joli petit local. Fort de cette réussite, je me suis lancé sur d'autres horizons pour faire une nouvelle implantation. Je me disais, je vais tout déchirer. J'y ai passé 14 ans de ma vie et cette église a disparu. C'est plus difficile à mettre dans les lettres de nouvelles. Comme Paul, je dois apprendre à remercier Dieu pour les échardes et les faiblesses et les échecs. Calvin le dit très bien. Les vallées sont arrosées de pluie pour les rendre fructueuses, tandis que les cimes des hautes montagnes restent sèches. Qu'il soit vallée, alors, l'homme qui souhaite recevoir la pluie céleste de la grâce de Dieu. Ou comme le dit très bien aussi un ami qui m'a écrit récemment, la grâce de Dieu s'infiltre par les fissures de notre vie. Alors merci Seigneur pour les fissures. Deuxième piège, le désir d'un ministère puissant peut m'empêcher de vivre dans la dépendance de la grâce de Dieu. Le peuple évangélique semble connaître un engouement actuel pour la notion de puissance. Sur un des sites où on peut commander des livres évangéliques, j'ai entré le mot « puissance » dans le moteur de recherche pour les titres de livres. J'ai trouvé 119 titres de livres avec le mot « puissance ». Voilà quelques exemples. Découvrez ce que nous donne la puissance de Dieu, la puissance de la prière. Exercez la puissance de la guérison. Expérimentez la puissance de Dieu. Comment libérer la puissance cachée de Dieu dans votre vie? L'onction et la puissance du Saint-Esprit. Parvenir à la puissance, la foi, le lien direct avec la puissance de Dieu. Comment déclencher la puissance de Dieu, la puissance de la louange, la puissance du vœu, un royaume de puissance. Je vous épargne les 100 autres titres. Je ne voudrais pas dire que la puissance de Dieu n'est pas un thème biblique. Certains de ces livres sont peut-être très bien, je ne les ai pas tous lus, loin s'en faut. Les Actes des Apôtres, le verset clé qui commence, « Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Seulement, nous apprenons ici, dans ce texte, que Dieu est puissant en nous quand nous sommes faibles. Il me semble qu'il y a un écho des Béatitudes où Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Sachant en tous les cas que selon ce texte, si nous cherchons un ministère puissant, le programme de Dieu pour nous est peut-être l'humiliation, l'épreuve, la faiblesse, l'attente, l'incompréhension devant le silence de Dieu et parfois la triomphe apparente du mal. Dieu ne répond pas à toutes nos requêtes de délivrance aujourd'hui. Parfois, sa réponse, c'est « Ma grâce te suffit ». De quelle grâce parle-t-il exactement dans ce texte? ça ne peut pas être la grâce de la guérison ou de la délivrance, puisque c'est justement la requête qui lui est refusée. Est-ce que c'est la grâce de son apostolat? Quand l'apôtre Paul parle de son apostolat, il en parle toujours en termes de grâce qui lui a été donnée. Mais le contexte ne s'y prête pas. Il me semble que la réponse toute simple, c'est que Dieu lui parle de la grâce de son salut. Saul de Tarse a persécuté l'Église de Christ, il a arrêté les chrétiens, il les a emprisonnés, il les a séparés de leurs enfants et de leurs conjoints, il les a torturés, mis à mort, forcés à blasphémer. Quand donc il a croisé sur le chemin de Damas une lumière inaccessible et que du sein de cette lumière, la personne s'est dit « Je suis Jésus que tu persécutes », il s'attendait dans l'instant à être écrasé comme une punaise sur la poussière de cette route. Et la réponse l'a étonné. Je t'ai appelé pour que tu portes mon nom devant les païens et les grands de ce monde. Quelle grâce! Et Dieu lui dit en quelque sorte, est-ce que ça ne te suffit pas, Paul? Est-ce que ça ne vous suffit pas d'échapper au jugement de Dieu que nous méritons? D'avoir la grâce de nos péchés pardonnés, la grâce de la vie éternelle, la grâce d'un héritage éternel, incorruptible, la grâce de devenir membre du corps de Christ, la grâce d'être co-ouvrier avec Christ alors que nous en sommes totalement indignes et incapables. Est-ce que tu as vraiment besoin d'autre chose que de ça? Paul l'apprend. As-tu besoin de réussir tout ce que tu entreprends? As-tu besoin de reconnaissance des autres chrétiens? As-tu besoin de la guérison de toutes tes maladies? As-tu besoin que j'élimine tous tes ennemis, que j'aplanisse tous tes chemins, que j'enlève toutes tes échardes? Oui, le royaume est venu et dans la puissance, mais le royaume n'est pas encore totalement venu dans sa plénitude. Et nous sommes dans cette période d'attente où il y a parfois le silence de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas besoin de foi, n'est-ce pas? Nous serions dans la vue. Le Seigneur l'a voulu ainsi, notre faiblesse, pour sa gloire. Troisième piège, le désir d'une vie confortable peut m'empêcher de vivre dans la dépendance de la grâce de Dieu. Dieu, dans sa grâce, accorde à Paul une écharde. Paul voit dans cette écharde quelque chose qui lui vient de Dieu, mais il voit aussi quelque chose qui vient du diable. Il y a une certaine tension ici. Ananisus, dans son livre « Mais délivre-nous du mal », dit ceci au sujet de ce texte. « Le diable nous incite à faire le mal, mais il se plaît aussi à faire du mal aux humains, de manière directe ou indirecte. Des maladies, accidents, incidents fâcheux, catastrophes qui surviennent dans notre vie peuvent être son œuvre. » Mais il n'agit que par permission divine, souveraine, comme nous le constatons dans le livre de Job. Alors j'aimerais bien vous dire que je vais enfin révéler la nature exacte de cette écharde, et vous repartirez content du congrès. Pour finir, la seule certitude que j'ai, c'est que ce n'était pas sa belle-mère puisqu'il n'était pas marié. Mais voilà certaines propositions des commentateurs. Une maladie, ça semble être la réponse la plus connue dans les commentateurs évangéliques, la maladie peut-être des yeux qui l'aurait obligé à s'arrêter chez les Galates, ou bien un démon carrément, comme Paul semble le dire aussi, un messager de Satan qui vient le tourmenter, lui donner des coups. Certains ont pensé que c'était sa grande tristesse par rapport à l'endurcissement d'Israël et ce peuple qu'il aime tant. Calvin disait que c'était une tentation persistante. Vous en avez comme ça? La lecture que je préfère est de voir dans cette écharde l'opposition constante à laquelle il doit faire face. De ville en ville, l'apôtre Paul est persécuté, entre autres par le peuple qu'il aime. Si c'est le cas, il est en train d'emprunter une expression du livre des Nombres, où on peut lire ceci. « Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux, comme des échardes dans vos flancs, ils seront vos adversaires dans le pays que vous habiterez. » Peu importe, la définition de l'écharde n'est pas capitale à notre compréhension du texte. Mais l'image de l'écharde est parlante. L'apôtre Paul souffre, il souffre beaucoup, il souffre depuis longtemps, il en a marre, il veut être délivré, il veut être guéri, il veut voir disparaître ce problème qui lui pourrit la vie. Quoi de plus normal ? Si vous aimez souffrir, je vous invite à consulter le plus rapidement possible votre maladie. Ah non, ça s'appelle le masochisme. Si vous voulez être délivré de vos problèmes, vous êtes normaux. Alors Paul prie, il s'attend probablement à ce que le Père Céleste, ce Père bienveillant, le délivre de sa souffrance. Mais attention Paul, attention frères et sœurs, attention prédicateurs. Comme j'ai dit dans mon introduction, ce que nous prenons pour des besoins ne le sont pas forcément. Nous les exprimons à Dieu. Mais ces besoins peuvent éclipser notre désir de Dieu même et de sa grâce. Nous pouvons ainsi réduire Dieu au rôle de valet céleste pour obtenir ce que nous désirons. C'est malheureusement la vision que semble prospérer parmi quelques auteurs évangéliques. Dans ma préparation, j'ai parcouru quelques présentations de livres en vente sur nos sites. J'en suis tombé sur un que je cite en exemple quand même. Ça s'appelle « La puissance de vaincre les problèmes ». Alors, le quatrième de couverture se lit comme ceci. Le docteur Creflo Dollard, alors je suis désolé, ça ne s'invente pas, c'est son nom, nom prédestiné s'il en est un. Le docteur Creflo Dollard vous donne quelques stratégies basées sur la parole de Dieu qui vous aideront à vous sortir de vos difficultés. Personne ne souhaite vivre dans les problèmes, mais quand c'est le cas, il existe un moyen de s'en sortir. Dieu a mis au point un système pour vous libérer de vos problèmes. Alors le seul regret qu'on pourrait avoir par rapport à un tel livre, c'est que ça n'ait pas été publié à temps pour que l'apôtre Paul en profite. Vous imaginez les problèmes que ça aurait pu lui éviter, être fouetté, lapidé, rejeté, naufragé, etc. Dans l'épreuve, demandons à Dieu de nous délivrer, mais dans l'épreuve, rappelons-nous de la priorité de notre salut, de notre grâce, et demandons-lui une compréhension renouvelée de cette grâce. Certains le savent, pour préparer cette prédication, j'ai écrit à plusieurs amis qui sont assis ici pour beaucoup d'entre eux, et je leur ai demandé comment ils comprenaient cette phrase « Ma grâce te suffit » et comment ils l'appliquaient à leur vie. Et je crois que je viens d'inventer une nouvelle application du monde connecté, c'est la prédication participative. Je vais vous lire quelques extraits de leurs réponses qui m'ont édifié. « Ma grâce te suffit » ne veut pas dire que la grâce résout automatiquement tous nos problèmes ou que ceux-ci ne sont pas graves, mais qu'elle ne nous fera pas défaut dans les choses essentielles. Autre personne. « Quand surgit l'écharde, la foi nue est sollicitée, c'est-à-dire la seule connaissance sans la vue de la grâce de Dieu. » C'est aussi l'attente de la plénitude, de l'accomplissement de la grâce. L'application pour moi, c'est d'apprendre à me réjouir des signes de la présence de Dieu, sans en être dépendant, quand ils viennent à manquer. Quelqu'un d'autre me rappelle, tu connais ce chant, je crois. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Quelqu'un d'autre, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, je constate dans ma vie que je lutte constamment avec des fragilités, une emprise de l'ennemi liée à mon passé, qui sont là depuis ma jeunesse et le début de ma vie chrétienne. Je vis avec la hantise de succomber à ces fragilités et j'ai beaucoup prié plus que 3 fois que le Seigneur m'en délivre pour que mon service soit plus facile. Mais la réponse est toujours la même et c'est un puissant antidote à l'orgueil. Quelqu'un d'autre. Je crois que les serviteurs de Dieu sont plus exposés que d'autres à s'enorgueillir de leurs belles tâches. Paul et moi avons besoin de voir que nos échardes sont un don de Dieu. Encore, je ne suis pas tout à fait l'homme que je voudrais être. J'ai trop de points faibles, je prends souvent des claques. Mais ce n'est pas vraiment un problème insurmontable. Dieu m'utilise tel que je suis, c'est lui et sa grâce qui sont déterminants dans ma vie comme dans mon service. Donc, stop au découragement. Et encore, ça me plaît cette citation, c'est comme si Dieu disait à Paul, « Tu aimerais être parfait, c'est un noble désir, mais qui sera réalisé plus tard. En attendant sur cette terre, ma grâce te suffit. C'est moins glorieux pour toi, Paul, ça l'est plus pour moi. » Dernière citation, 2 Corinthiens est une défense d'un ministère chrétien authentique, caractérisé par la souffrance et la faiblesse. Mon application, c'est un encouragement extraordinaire pour celui ou celle qui se sent faible dans son ministère. Je n'ai pas la pression d'être un orateur exceptionnel, un pasteur parfait, un ministre du culte qui doit réussir à la force de son poignet, parce que de manière ultime, Dieu est à l'œuvre en puissance à travers moi, son vase de terre fragile. Une conclusion brève. Je ne voudrais pas terminer cette prédication sans tourner nos yeux vers Jésus-Christ, modèle du serviteur, modèle encore plus parlant que celui de l'apôtre Paul, et je pense que Paul même dans le texte tourne nos yeux vers lui. Quand il nous dit qu'il a demandé à 3 reprises que les chars lui soient ôtés, n'est-il pas en train de nous rappeler Gethsemane ? Le Christ a exprimé au Père son désir d'homme dans les larmes, dans la transpiration, dans l'angoisse, dans la souffrance, dans la solitude, et il crie au Père, éloigne de moi cette coupe. Mais il rajoute, en se reposant totalement sur la souveraineté du Père, si c'est ta volonté. Et la volonté de Dieu a été de triompher par la souffrance du Christ, par l'échec apparent de la croix, par la faiblesse de son serviteur souffrant. Pouvons-nous prétendre à autre chose, nous qui suivons le Christ ? Dieu nous a fait grâce en Christ. Et l'exemple de Christ est un modèle pour notre ministère. Quelle grâce douloureuse ! Quelle grâce coûteuse ! Quelle grâce étrange, quelle grâce incompréhensible, mais quelle grâce fructueuse qui a accompli notre salut. Ne faisons donc pas de nos requêtes de prière, aussi logiques, aussi ardentes, aussi légitimes qu'y soient, des exigences vis-à-vis de Dieu. Laissons-lui la souveraineté de nous faire une grâce qui peut nous étonner. Une grâce qui peut être parfois sévère. Et comme Paul, apprenons le contentement spirituel. L'apôtre Paul a appris à vivre dans l'abondance matérielle et dans la disette matérielle. Il a aussi appris à vivre dans l'abondance des signes de la présence de Dieu et des miracles, il en a vu. Mais il a aussi appris à vivre sans ces signes, par la foi, en comptant sur la grâce et la souveraineté de Dieu, comme Jésus-Christ, qui jusqu'à la croix a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous vivons donc suspendus à la grâce. La grâce parfois invisible, mais la grâce certaine de Dieu.